Et puis nous accueillerons les personnes qui arriveront en retard avec plaisir et notre présidente également avec plaisir. Mais c'est vrai que la principauté est bloquée aujourd'hui. Alors nous sommes dans une série de séances pour raconter l'histoire de l'orchestre, notre orchestre monégasque qui a été créé en 1856. Et nous sommes au second épisode. Alors je vais quand même commencer par faire un rappel du premier épisode, comme on fait dans toutes les bonnes séries. Je vous l'ai dit, cet orchestre a été créé en 1856. Ce n'était pas un grand orchestre comme maintenant. Il n'y avait que 15 musiciens au début, mais on commence petit et puis on devient grand, hein. En 1856, que se passait-il dans la principauté de Monaco? Eh bien, la principauté était à un moment charnière de son histoire. La principauté passait de l'état d'une espèce de petit village campagnard qu'était Monaco, parce que c'était le cas, hein, au début du 19e siècle, à cette grande ville de tourisme où l'on viendrait d'Europe entière et du monde entier. Et cette transition s'est faite en l'espace d'une vingtaine d'années. Au début du 19e siècle, on sortait de la révolution qui avait marqué Monaco, hein, puisque Monaco a perdu son identité de principauté pendant plus de 20 ans. Hein, on a un petit peu oublié ça. Hein, Monaco était Fort Hercule, hein, occupé par les révolutionnaires, et le prince Honoré III avait été destitué, et les princes avaient perdu leurs biens. Hein, les biens qu'ils avaient en France et qui leur permettaient d'alimenter les finances de la principauté. Donc la principauté était ruinée, en fait. Bien. Donc il a fallu la rétablir ses finances. Et l'un des princes qui fut chargé de cela, c'est le prince Florestan, oh, qui n'a pas été un grand prince. Il n'était pas destiné à être prince, c'était un comédien, c'était un artiste. Il est venu un petit peu par hasard à la tête de la principauté de Monaco à la suite du décès de son frère. Mais Florestan avait eu une très bonne idée de se marier avec une personne qui s'appelait Caroline Gibert, qui est une personne très fortunée, qui venait d'une famille de vignerons de champagne. Et elle mit sa fortune, elle mit sa dot pour renflouer partiellement les finances de Monaco. Et cette Caroline Gibert était vraiment une femme d'affaires, une femme de tête, et c'est elle qui maîtrisa la gestion de Monaco pendant que son mari Florestan était le prince officiel. Alors elle eut plusieurs bonnes idées, non seulement le fait d'avoir de l'argent, mais également l'idée que ben, peut-être qu'il fallait changer d'orientation pour la gestion de la principauté. Et la principauté n'était plus destinée à être un territoire agricole où l'on faisait de la pêche, où l'on cultivait les orangers et les citronniers, mais que peut-être la principauté pourrait accueillir un casino. Et c'est Caroline Gibert qui eut l'idée. Alors, elle ne la réalisa pas elle-même, mais c'est elle qui lança l'idée de créer un casino à Monaco, ce qui allait changer complètement la physionomie et l'histoire de la principauté. Et puis, elle eut une autre seconde bonne idée, c'est de faire marier son fils, le futur prince Charles III, avec une personne alors extrêmement riche, encore plus riche qu'elle, qui était Antoinette de Mérode, qui venait de l'aristocratie belge. Et cette personne fut si riche que pratiquement, eh ben, les dettes de, elle put rembourser toutes les dettes de la principauté de Monaco et remettre à flot les finances de la principauté. Nous saluons l'arrivée de la présidente. Alors, le fait d'arriver ici en principauté, assiégé par les gens du yacht show, est quelque chose d'héroïque. Oui, le yacht show l'année prochaine. Alors, cher président, de toute façon, j'étais en train de rappeler l'épisode précédent, donc, comme vous y étiez, au revoir, monsieur. Donc, voilà. Donc, je rappelais que Charles III, donc, arriva au pouvoir, et Charles III aidait financièrement, et là encore, intellectuellement, par sa femme Antoinette de Mérode, transforma la principauté. Donc, il mit en œuvre l'idée que lui avait soufflée sa mère de créer vraiment un grand casino. Et pour cela, il fit appel à François Blanc, qui avait fait cette expérience de directeur de casino en Allemagne et qui avait extrêmement bien réussi à Hambourg. Il le fit venir et, ma foi, eh bien, c'est là qu'il eut l'idée de créer ce nouveau quartier de Monaco qui est Monte Carlo. Monte Carlo, le mont Charles, le mont qui est dédié au prince Charles. Et là, eh bien, ma foi, eh bien, tout ce qui était le paysage campagnard, forestier, qui se trouvait au plateau des Spélugues, disparut. Et on commença à construire un casino, un premier casino qu'on verra tout à l'heure. Voilà, vous avez les différents protagonistes de l'histoire que je suis en train de vous raconter. Vous avez Charles III, vous avez son épouse Antoinette de Mérode, vous avez François Blanc, hein, qui va venir vraiment transformer la principauté en créant son casino. Vous avez son épouse Marie Blanc. Et donc, qui dit casino, dit, j'allais dire, un orchestre qui va avec. Hein. C'était pas un orchestre pour créer une vie culturelle. C'était tout simplement un orchestre pour distraire les joueurs. Les joueurs allaient jouer au casino, ils venaient écouter un peu de musique, puis ensuite ils repartaient à l'entracte, et puis ils revenaient encore écouter un peu de musique. Et il y avait à cette époque ce qu'on n'a certainement pas toléré les syndicats aujourd'hui, deux concerts par jour. Un concert à 17h, un concert d'après-midi et un concert du soir. Et c'est là tous les jours pour accompagner les venues des joueurs. Alors, le premier casino ne s'appelait pas casino, il s'appelait le Cercle des étrangers, mais le principe était le même. Donc, Charles III arrive au pouvoir et puis il se passe quelque chose de considérable dans l'histoire de la principauté et de la région. C'est qu'en 1860, le comté de Nice est rattaché à la France. Le comté de Nice est rattaché à la France, donc la principauté de Monaco ne se trouve plus enclavée dans le royaume de Piémont-Sardaigne, mais enclavée dans la France sous tutelle de qui la principauté se trouve. Et Charles III fait plusieurs choses extraordinaires. Non seulement l'idée de créer un casino, mais surtout de négocier l'avenir de la principauté avec celui qui était devenu l'empereur des Français, Napoléon III. Et donc, il vendit, à Napoléon III, Roquebrune et Menton, hein, qui s'était un petit peu soulevé contre le prince pendant la Révolution, donc il n'en voulait plus. Il diminuait des 9 dixièmes la superficie de la principauté de Monaco, mais ça ne fait rien. Monaco et Monte-Carlo lui suffisaient pour la prospérité de sa principauté. Et surtout, il négocia, et ça ce fut capital, l'arrivée du train. Parce que si le train n'était pas arrivé à Monaco, eh bien Monaco serait resté en fait ce petit village auquel on accédait très difficilement. À part aujourd'hui, hein, on arrivait très difficilement à Monte-Carlo. Il n'y avait pas de route directe entre Nice et Monaco. Il fallait aller jusqu'à Menton et revenir. Pour descendre de la Turbie, il y avait simplement un petit chemin muletier. Il n'y avait pas de route. Hein. Voilà. Et donc, initialement, dans le projet de Napoléon III de faire circuler des trains dans toute la France, eh bien, le projet depuis Nice était d'aller de Nice à Cuneo, de Nice en Italie, mais sans passer par Monaco. Et le génie de Charles III a été d'obtenir de Napoléon III que le train vienne ici à Monaco. Et alors à ce moment-là, les joueurs, les voyageurs, les touristes purent venir à Monaco. Et pour leur faciliter l'accès au casino, eh bien, il y eut deux gares, la gare qu'on a connue un certain temps de Monaco, mais une gare également à Monte-Carlo, hein, qui se trouvait à l'endroit de l'hôtel Fairmont. Et les joueurs descendaient sur le quai, ils avaient un ascenseur, ils montaient directement dans les salles de jeu. C'était parfaitement organisé. Ah. Et donc voilà ce que fit Charles III. Et à ce moment-là, la principauté devint si riche que Charles III prit cette décision que les princes futurs peut-être ont regretté, les princes actuels ont regretté, de supprimer les impôts. Parce que, ma foi, les jeux rapportaient tellement d'argent qu'il n'y avait plus besoin que les monégasques paient d'impôts. Et donc, eh ben, avec la prospérité de Monaco, eut lieu la prospérité de l'orchestre. Et l'orchestre, qui était en 1856 uniquement composé de 15 musiciens, en 1870, avait déjà 70 musiciens. C'était un grand orchestre symphonique qui pouvait jouer les symphonies de Beethoven, qui pouvait jouer les airs des opéras du 19e siècle. Le premier chef d'orchestre, et là je termine donc sur le résumé de l'épisode précédent, était quelqu'un qui, j'allais dire, enfin, dont la personnalité me plaît assez, c'est Eusèbe Lucas. Pourquoi cette personnalité me plaît assez? C'est parce que Eusèbe Lucas était non seulement musicien chef d'orchestre, mais également journaliste. Voilà. Il avait les deux qualités. Et c'est lui qui avait créé, à cette époque-là, le journal de Monaco, qu'il appelait l'Éden au début, et qui est devenu le journal de Monaco. Alors, Eusèbe Lucas dirigeait les symphonies de Mozart, de Beethoven, ou les airs d'opéra de l'époque, mais également faisait les chroniques mondaines, les chroniques politiques du journal de Monaco. Et cela dura jusqu'en 1876, où ben, il finit son contrat. Et donc, c'est la fin de notre premier épisode. Alors, qui lui succéda en 1876? Eh bien, ce personnage que vous voyez ici, ce beau monsieur avec sa belle barbichette, là, qui s'appelle Roméo Accursi. Qui était Roméo Accursi, donc le second directeur de l'orchestre de Monaco dans son histoire? Eh bien, c'était le neveu d'un grand compositeur qui s'appelle Donizetti. Donizetti avait un frère et deux sœurs, et c'est le fils d'une de ces deux sœurs, qui était Roméo Accursi, très introduit dans la vie parisienne. Parce que Donizetti avait été un personnage important. Donizetti, ça a été l'un des plus grands compositeurs d'opéra du début du 19e siècle, mort en 1848. Et c'était un compositeur qui a composé 70 opéras en 30 ans, quoi, moins de 30 ans. C'est-à-dire s'il composait les opéras à la chaîne, hein, et à la fois des opéras dramatiques, comme Lucie de la Mermoure, ou des opéras comiques comme L'Élixir d'amour. Hein, il faisait à la fois l'opéra seria et l'opéra bouffa. Mais surtout, il faisait du bel canto. Et il était très prisé dans la capitale parisienne. Le fait d'ailleurs qu'il ait composé 70 opéras en 30 ans l'a rendu fou. Hein, il termina sa vie fou. On a été obligé de l'enfermer dans un asile à Paris. C'est comme ça que Donizetti a fini sa vie. Et d'ailleurs, il s'est passé d'ailleurs, enfin, c'est une parenthèse, il s'est passé une histoire tout à fait extraordinaire. C'est que un de ses neveux, qui n'était pas Roméo Accursi, mais un autre neveu qui s'occupait de lui en fait, a voulu le faire partir de Paris jusqu'à sa ville natale de Bergame pour qu'il y meure dans son pays d'origine. Et là, il y a une affaire alors, qui n'a jamais été élucidée, c'est que l'État français interdisit que Donizetti quitte le territoire français. Pourquoi? On ne sait pas. Et il y avait des policiers, l'État français avait mis des policiers devant son domicile pour être sûr qu'on ne ferait pas partir Donizetti en Italie. Alors après, bon, l'affaire s'est arrangée, je crois qu'il y a des diplomates qui sont intervenus et il a pu partir et aller mourir en Italie. Parenthèse fermée sur Donizetti. Donc, l'un de ses neveux, Roméo Accursi, était un personnage important. Il était à la fois violoniste et chef d'orchestre dans un orchestre important qui avait été créé à cette époque-là, dont le nom doit vous dire quelque chose, à Paris, hein, l'orchestre Padeloup. C'est Archimède II, donc il en était le violon solo. Il était chef d'orchestre. Il dirigeait également au théâtre italien de Paris, qui avait été créé par Rossini, et Rossini était un de ses amis. Il avait, Romuald Kurzi avait deux amis importants, c'est Rossini et Auber. Hein, Esprit Auber, ce grand compositeur d'opéra qu'on a un petit peu oublié depuis, et, mais qui a sa station de RER à Paris, hein, la station Auber, à côté de l'opéra. Ben voilà, c'était ce grand compositeur, directeur du Conservatoire de Paris à l'époque. Donc, Romuald Kurzi était très introduit dans la vie parisienne. D'autre part, il était un chef d'orchestre important, le chef d'orchestre de Vichy, de l'opéra de Vichy. Et l'opéra de Vichy était important à cette époque-là, puisque les gens allaient passer l'été à Vichy en cure. Donc, il était très remarqué. Et lorsque Marie Blanc, la femme de François Blanc, participa au recrutement d'un nouveau chef d'orchestre pour l'orchestre de Monaco, eh bien, elle fit appel à Romuald Kurzi, qui resta pendant une dizaine d'années et qui marqua l'histoire de l'opéra, de l'histoire de l'orchestre monégasque, non seulement par la qualité de ses interprétations, par l'originalité de ses programmes, mais également par le fait que c'est sous son mandat que fut décidée la création et la construction de l'opéra Garnier de Monaco. Et quand je dis opéra Garnier, en fait, ce n'est pas exactement ce que je devrais dire. C'est pendant qu'il fut chef d'orchestre à Monaco qu'il fut décidé la création d'une nouvelle salle de concert. Parce qu'en fait, à l'origine, la salle Garnier, que nous connaissons comme notre opéra, fut créée pour être la salle de concert de l'orchestre. C'est pour ça qu'il est bon d'en parler lorsqu'on fait l'histoire de l'orchestre de Monte-Carlo. Alors, les programmes que fit Romuald Kurzi, avant que je vous parle de la construction de l'opéra, furent extrêmement brillants. Hein, c'était tous les grands compositeurs de l'époque, mais je pense que le plus brillant fut le concert qui fut donné le 12 mars 1881 avec le quatrième concerto de Saint-Saëns, et Saint-Saëns lui-même était au piano. Ça, c'était extraordinaire. Hein. Romuald Kurzi dirigeait, Saint-Saëns était au piano. Saint-Saëns qui deviendrait par la suite un ami très fidèle du prince Albert Ier, qui fut le successeur de Charles III. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'enchaîne, que Saint-Saëns fut amené à composer plusieurs opéras à la demande d'Albert Ier, dont l'opéra L'Ancêtre, hein, qui a été créé en 1904 ou 1906 à l'Opéra Garnier de Monaco, et qui sera plus de 100 ans, enfin 110 ans après, repris dimanche prochain, enfin pas ce dimanche-là, mais l'autre dimanche, le 6 octobre, par le Philharmonique de Monte-Carlo. Ce sera un grand événement. L'opéra sera donné sous forme de concert, hein, pas sous forme de représentation, mais ça sera un grand événement que la reprise de cet opéra de Camille Saint-Saëns. Mais donc, Camille Saint-Saëns, la première fois qu'il vint en principauté de Monaco, eh bien, ce fut le 12 mars 1881 pour interpréter son quatrième concerto pour piano et orchestre, dont nous écoutons maintenant, dont nous allons écouter maintenant un extrait. Je crois que je l'ai sorti ici, pardonnez-moi. Attendez, j'ai une petite manœuvre, une petite manipulation pour retrouver cet enregistrement, pardonnez-moi. Eh bien, je ne le retrouve pas. Ah voilà, je crois que je l'ai ici, voilà. Voilà, le quatrième concerto de Saint-Saëns. j'interromps ici. Alors, chose un petit peu curieuse et extraordinaire coïncidence, l'enregistrement que je viens d'entendre, que je viens de vous diffuser, était avec comme soliste François-René Duchâble sur le disque, et qui est en train de répéter, là, en dessous, dans la salle de concert, le concert qu'il donnera demain soir avec l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo. Donc, si on peut passer l'image suivante, vous allez découvrir ici l'image du premier casino qui a été construit ici à Monte Carlo, hein, sur le plateau des Spélugues, qu'on a fait complètement déboiser. Et voilà, ce fut l'une des premières constructions. On construisit à peu près en même temps l'hôtel de Paris. Alors, c'est dans ce bâtiment, qui était un bâtiment style palazzo italien, qu'avaient lieu à la fois les salles de jeu et également dans ce qui est à l'heure actuelle l'atrium, la salle de concert, pour contenir 70 musiciens, puisque je vous ai dit qu'en 1870, il y avait déjà 70 musiciens et la salle de concert était devenue complètement exiguë. Donc c'est là que Barry Blanc décida, il faut construire une nouvelle salle de concert. Je dis bien salle de concert et pas salle d'opéra. Avec l'idée que la musique va attirer des gens qui viendront jouer au casino. Et le principe était celui que je vous ai dit tout à l'heure. Il y avait un concert à 17h, un concert le soir et tous les jours. Donc ça veut dire que les musiciens devaient être très, très entraînés à déchiffrer la musique. Il n'y avait pas 3 jours de répétition avant chaque concert. Et donc Marie Blanc dit au nom de son mari, qui avait disparu, eh bien, nous allons construire une salle de concert, mais avec, dans le cahier des charges, et c'est ça qui est tout à fait intéressant, parce que ça a eu une influence sur l'architecture de la salle, le fait que la salle donne sur la mer avec des fenêtres. Parce que si on avait voulu créer uniquement une salle d'opéra, il suffisait de faire une salle complètement fermée. Mais là, il y avait l'idée du concert de 17h, où les gens venaient, ils pouvaient prendre un thé sur la terrasse, ils pouvaient aller... C'est comme un espèce de kiosque à musique. Et voilà pourquoi l'opéra de Monaco, la salle Garnier de Monaco, a cette particularité d'avoir 3 grandes fenêtres qui donnent sur les terrasses et qui donnent sur la mer. Voilà l'explication. C'était vraiment pour les concerts de 17h, les concerts du thé dansant presque, parce que c'était souvent de la musique légère qui était donnée entre des symphonies de Beethoven ou de Haydn ou de Mozart. À qui fit-on appel pour créer cette salle de concert ? Eh bien, un architecte qui s'était distingué quelques années plus tôt en construisant le fameux opéra de Paris, Charles Garnier. Et le fait d'avoir choisi Charles Garnier par Napoléon III pour construire l'Opéra de Paris était quelque chose de complètement audacieux. Parce que lorsque Charles Garnier a été choisi pour construire l'Opéra de Paris, il n'avait que 35 ans. Il n'avait rien construit de monumental. Il avait eu simplement le prix de Rome d'architecture. Et ma foi, le gouvernement français lui a fait confiance. Et c'est là qu'il a construit ces bâtiments extraordinaires, ce bâtiment extraordinaire, dont la construction a été plus longue que prévu, ce qui fait que lorsque, je ne sais plus à quelle exposition universelle de Paris, on a voulu faire l'inauguration de l'Opéra de Paris, on ne put inaugurer que la façade qui avait été faite, et les gens étaient éblouis déjà par la façade de l'Opéra de Paris, le reste du bâtiment était à construire. Et l'impératrice Eugénie, d'ailleurs, s'approchant de Charles Garnier, dit « Mais quel est ce style ? Ce n'est pas un style antique, ce n'est pas un style rococo. » Et Charles Garnier avait répondu « C'est le style Napoléon III. » Voilà. Et le style Napoléon III, c'est le style de notre opéra. Donc, on construisait l'Opéra de Paris, et voilà qu'arrive la guerre de 1870. Une catastrophe pour la France, une catastrophe pour l'histoire de France et pour les finances françaises. lorsque la guerre fut finie, la République établie, l'empereur emprisonné, la vie reprit son cours. Et il y a eu des gens qui ont dit il faut finir la construction de l'Opéra de Paris. Mais il n'y avait plus d'argent. Il y avait d'autres priorités que la construction de l'Opéra de Paris. Et là, chose magnifique pour nous, monégasques, enfin nous qui habitons Monaco, et une chose qu'on ne sait pas assez, c'est que Charles III, qui était si riche, François Blanc, directeur de la SBM, directeur des casinos de Monte-Carlo, ont dit on va aider la construction de l'Opéra de Paris. Et ils donnèrent 5 millions de francs or pour la construction de l'Opéra de Paris. Et si l'Opéra de Paris a été achevé, c'est grâce aux Monégasques. Voilà. Et ça, on le dit. Et en remerciement, Charles Garnier dit écoutez, dans ce cas-là, pour vous remercier, je vais vous construire votre opéra et votre salle de concert. C'est pour ça que Charles Garnier vint. Et qu'il réussit cette prouesse absolument extraordinaire, dans l'histoire de l'architecture mondiale, de réaliser ce bâtiment en 8 mois. C'est absolument phénoménal. Vous voyez ici, alors, voilà le Charles Garnier, qui était avec ce physique un petit peu bizarre, là, c'est un petit peu ingrat. Là, on ne voit pas, mais il avait une espèce de trace de petite vérole sur la face. Et voici un des plans avec les trois fenêtres. Les trois fenêtres qui donnaient sur la mer pour les concerts de l'après-midi. Alors, le cahier des charges était le suivant. Donc, il fallait prendre en compte le bâtiment qui existait déjà, l'intérieur du bâtiment, construire au sud-ouest une nouvelle salle qui viendrait se coller à la première, faire une espèce de couverte pour aller de la salle de concert aux salles de jeu, ça devint l'atrium que nous connaissons aujourd'hui, avec l'entrée des artistes côté mer, l'entrée des princes, là où on le connaît, et puis l'entrée du public côté nord. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'en fait la façade principale du bâtiment n'est pas celle que nous voyons sur la place, de l'Opéra. C'est en fait la façade principale du bâtiment est vraiment celle qui donne sur la mer. Et finalement, on n'a pas trop conscience. Quand on voit en esprit le bâtiment de l'Opéra de Monaco, on pense à son entrée devant les grands jardins qui descendent sur la façade nord, alors que la façade principale est bel et bien la façade sud, avec tous ces décrochements, avec ces deux tours. D'ailleurs, on a demandé à Charles Garnier à quoi correspondaient ces deux tours pour une salle de concert, voire une salle d'opéra. À rien, si ce n'est pour faire un beau geste architectural. Charles Garnier s'inspira d'ailleurs de deux villas qu'il avait construites un petit peu avant, et que vous connaissez peut-être, les villas Bordiguère, la villa Garnier, et la villa Bischofsen, qui se trouve encore à Bordiguère, dans laquelle il y a une tour également qui signe qui sont la signature de Charles Garnier. Parenthèse, qui était Bischofsen, à qui il avait fait un peu avant, donc une villa à Bordiguère, c'était ce grand banquier qui construisit l'observatoire de Nice. Et l'observatoire de Nice, là encore, c'est pas très connu, a été construit par Charles Garnier aussi. Après l'opéra de Monaco, il a construit l'observatoire de Nice, les différents bâtiments en rotonde de l'observatoire de Nice, dont l'architecture métallique de la coupole a été faite par Eiffel lui-même. Voilà. Donc, l'observatoire de Nice a deux architectes considérables dans son histoire, Charles Garnier et Gustave Eiffel. Donc, voilà Charles Garnier qui est mandaté pour construire la nouvelle salle de concert. Et ma foi, cela se passa, je vous l'ai dit, en 8 mois, ce qui fut absolument extraordinaire. Je crois qu'il a eu son contrat en avril 78, 1878, et l'inauguration a été faite le 20 janvier 1879. Alors, je me suis amusé, hein, à lire les journaux de l'époque, bien sûr, et voir l'évolution pendant ces 8 mois de la construction de l'opéra. Où on peut d'ailleurs constater une chose absolument ahurissante, et c'est dit dans la presse de l'époque, c'est que lorsque les travaux commencèrent, en fait, les plans n'étaient pas finis. Ce qui était absolument inconcevable. Normalement, lorsqu'on fait une construction, lorsqu'on a un permis de construire, il faut présenter quand même au gouvernement ou à l'administration un plan complètement achevé. Là, pas du tout. Ils ont commencé à construire et Charles Garnier donnait des ordres pour construire au plateau des Spélugues, pour creuser, alors qu'il n'avait pas encore fini dans sa tête le dessin de l'opéra. Si cette construction s'est faite si rapidement, et je vous répète, c'est quelque chose d'inimaginable dans l'histoire de l'architecture, vu l'importance de ce bâtiment, c'est que, il mit 400 ouvriers, ce qui était quand même pas mal, qui travaillèrent jour et nuit. Et comment travaillèrent-ils la nuit? C'est que venait d'arriver dans le monde scientifique l'électricité. Et l'électricité, ce qui était nouvelle, une invention nouvelle, était créée par une dynamo. Et pour créer cette dynamo, enfin le mouvement de cette dynamo, Charles Garnier avait demandé que soit transportée depuis la gare de Monte-Carlo, par grue, une locomotive qui avait été installée au niveau des terrasses. Et cette locomotive, eh bien, elle tournait à plein, elle faisait tourner les dynamos. Et c'est comme ça que fut réalisée cette prouesse architecturale, cette construction si rapide. Et je peux vous dire, et je vous lirai tout à l'heure l'article, le jour de l'inauguration, enfin même l'après-midi de l'inauguration, qui eut lieu le 20 janvier 1879, eh bien, dans l'après-midi, il y avait encore des ouvriers qui travaillaient. Le bâtiment était fini un quart d'heure. Enfin, les décorations du bâtiment étaient finies un quart d'heure avant le début de l'inauguration. On voit ici, évidemment, les échafaudages extraordinaires qu'il fallut monter pour réaliser cette construction extraordinaire. Alors, je vous ai dit, oui, j'ai lu des articles, hein, des différents journaux. Alors évidemment, j'ai parcouru les 8 mois, mais voici par exemple le journal de Monaco du 14 mai 1878, hein, donc un mois après que Charles Garnier ait eu son contrat signé. On a commencé jeudi à déplanter les arbustes qui ornent la terrasse du casino du côté de la mer pour entreprendre les travaux de la nouvelle salle de spectacle. La salle de concert actuelle sera convertie en grande partie en promenoir, hein, ce que j'ai expliqué, c'est l'atrium actuel, faisant prolongement à celle des Pas-Perdus. La nouvelle salle qui prendra le milieu de la façade sud du casino et s'avancera sur le jardin pourra contenir 700 à 800 spectateurs. En fait, il n'y en a que 500. Mais voyez, au moment, en mai, on ne sait même pas combien la salle va contenir de spectateurs. C'est dire que vraiment, les plans ne sont pas encore arrêtés. Les travaux vont être poussés avec la plus grande activité pour que tout soit prêt, dit-on, au mois d'octobre. Oh, ce ne sera pas prêt au mois d'octobre, ce sera prêt au mois de janvier. Mais voilà l'article de mai. Également en mai 68, mai 78, du moins, quelques jours plus tard. Le même journal de Monaco, les fouilles faites dans le roc pour les fondations du théâtre ont été commencées avant qu'aucun dessin d'architecture n'ait encore été exécuté. C'est incroyable, hein? Et puis alors, le journaliste décrit Charles Garnier allant et venant, fiévreux, donnant des ordres, distribuant les conseils, rectifiant à gauche, redressant à droite, passant comme un chef hardi sur les planches les plus impraticables. Alors bon, les semaines passent, les ouvriers travaillent nuit et jour, la nuit à la lumière de l'électricité fournie par la locomotive. Et voilà un extrait du journal du 15 octobre, hein, on a bien avancé. La salle n'est pas perdue, vaste atrium de 14,50 m de hauteur occupe toute la largeur de la façade principale du monument. Elle a 13,50 m de largeur. Les voussures qui entourent le plafond sont terminées et la pose de verre gravé provenant de la maison Bitterlin à Paris aura lieu incessamment. Une galerie rectangulaire à hauteur du premier étage, soutenue par des colonnes de stuc, fait le tour de l'atrium et donne accès au bureau de l'administration et aux loges d'angle de la salle de spectacle. Mais on reconnaît ce qu'on sait, l'atrium actuel. Les chapiteaux, les consoles formant la décoration architecturale de l'entablement de la galerie sont terminés. Le dessin des façades, dont la parenté avec l'Opéra de Paris est manifeste, révèle une conception artistique peu commune. La salle contiendra environ 600 personnes. Ah, en octobre, on sait maintenant qu'il n'y a pas 800, mais 600 personnes. Une magnifique loge supportée par des colonnades en marbre fait face à la scène. Elle sera destinée à la famille princière. Donc, les travaux continuent. Alors, les travaux, évidemment, de maçonnerie sont faits sur place. Par contre, les décors viennent de Paris. Vous avez vu les verrières, mais également les sculptures, les statues. Et parmi les sculptures, il y en a une, j'allais dire, qui est particulièrement émouvante. C'est celle qui représente le champ. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle se trouve dans un décrochement de la façade sud. Et pourquoi elle est émouvante? Parce qu'elle est d'un sculpteur, ou plutôt d'une sculptrice, qu'on connaît très bien, et je vais en parler tout à l'heure, comme comédienne, mais dont on ne savait pas qu'elle était sculptrice également, c'est Sarah Bernard. Vous avez sur la face sud, donc, une sculpture du champ, une allégorie du champ de Sarah Bernard. Alors, je continue mes lectures des journaux de Monaco. Donc, on était en octobre, maintenant on est en décembre. Journal du 24 décembre, la salle présente une superficie de 400 mètres carrés à une hauteur de 20,45 mètres. Ce monument est le style Garnier. Il peut être cité comme une des œuvres les plus remarquables de notre époque. Parce que c'est 20 décembre, là, le bâtiment est presque fini. Et nous voici au jour de l'inauguration. L'inauguration qui a lieu, tout à l'heure je vous ai dit le 20 janvier, en fait c'est le 25 janvier 1879, et comme je vous le disais, la salle sent encore la peinture fraîche, les dernières couches ont été passées dans l'après-midi. À 14h, alors que l'orchestre prenait place pour la répétition, la scène était encore tout encombrée d'échelles aux dimensions invraisemblables où les peintres étaient juchés pour achever les frises. Vraiment, c'était au dernier moment. Voilà. Et évidemment, cette inauguration fantastique, mémorable, qui a marqué l'histoire de la principauté et pour laquelle le journal de Monaco a fait une grande une. Et cette grande une s'intitule « Inauguration de la nouvelle salle de concert ». Comme je vous dis, c'était une salle qui était destinée à l'orchestre, à notre orchestre, avant d'être destinée à des représentations d'opéra, même si par la suite elle devint évidemment une salle d'opéra. D'ailleurs, le jour de l'inauguration, on ne fit pas une représentation lyrique, ce fut un concert. C'était en l'honneur de l'orchestre qui avait maintenant plus de 70 musiciens. Alors, la soirée d'inauguration du monument de M. Garnier laissera un souvenir ineffaçable dans le monde artistique. À l'intérieur se presse une foule élégante. Tout ce que Monaco compte d'étrangers, de distinctions et de notabilités est là. L'aristocratie européenne est représentée dans cette fête. Le monde des arts et des lettres a envoyé à Monte Carlo ses écrivains les plus connus. Rien ne manque à la solennité. Un murmure d'admiration court dans l'assistance quand le rideau, riche tenture en damas brochée d'or, laisse voir la scène qui, par sa décoration, complète si bien l'œuvre générale. Au fond de la Seine sont placées deux immenses glaces dans lesquelles se reflètent les 1000 feux du lustre et des candélabres. Le lustre, admirable d'élégance et de forme, ressemble beaucoup à celui du Grand Opéra de Paris, dont il a presque la dimension. Les cariatides de M. Chabot ont du mouvement et occupent dignement les angles. Donc voilà, on est venu de Paris et de l'Europe entière pour assister à ce grand événement qu'est l'inauguration de la salle de Charles Garnier. Je dois vous dire d'ailleurs à ce sujet que Charles Garnier était là, ce qui était bien la moindre des choses. Si je vous dis cela, c'est que lors de l'inauguration de l'Opéra de Paris, qui avait été construit par Charles Garnier, eh bien, il y avait évidemment des invités de toute l'Europe. Et sur la liste des invités, on avait oublié Charles Garnier. Quand il se présenta à l'entrée, il fut confronté, vous savez, à des vigiles. Et il dit, bah, monsieur, je suis Charles Garnier. Ah bah, attendez, est-ce que vous êtes sur la liste? J'ai. Ah, non, il n'y a pas de Charles Garnier. C'est Garnier Charles? Non, c'est moi qui ai construit l'opéra. Ah bah, on ne veut pas savoir, vous n'êtes pas sur la liste. Et je crois qu'il paya sa place. Et donc, il entra dans la salle. Il fut évidemment acclamé. Mais ça, c'est une des grandes bourdes de l'administration, comme il y en a un petit peu partout. Alors, ce jour-là, pour l'inauguration de sa salle à Monaco, Charles Garnier fut présent, ainsi que Charles III, bien entendu, qui n'avait que 69 ans, mais qui était déjà bien vieilli. Il était quasiment aveugle. Il était veuf. Son épouse, Antoinette de Mérode, était décédée. Et il avait à côté de lui sa sœur, la belle princesse Florestine, qui était mariée au duc de Wurtemberg. Et c'est elle qui représenta le prince. Et c'est elle qui fit venir Charles Garnier dans la loge princière pour le décorer du grand cordon de Saint-Charles. Et dans la salle, il y avait évidemment, parmi les personnalités, il y avait le directeur du Figaro lui-même, qui s'appelait Hippolyte de Villemessant, qui a été le grand directeur du Figaro à l'époque, et qui est d'ailleurs mort à Monaco. Il est mort à Monaco quelques années plus tard. Et puis il y avait également cet écrivain magnifique, qui s'appelle Stéphane Liégeard, et vous savez qui est Stéphane Liégeard, c'est cet écrivain qui, en 1889, écrivit un livre intitulé « La Côte d'Azur », et c'est le titre de ce livre qui a été donné à notre région. Donc Stéphane Liégeard est l'auteur du titre de notre région, de la Côte d'Azur, et il se trouvait là, bien sûr, il fit une description magnifique de l'inauguration. Alors l'inauguration fut faite par une grande comédienne qui était Sarah Bernhardt. Comme je vous ai dit, ce n'était pas un opéra, mais c'était un concert. Et quand le rideau s'ouvrit, eh bien, il y avait ce rocher qui représentait le bord de mer. Et Sarah Bernhardt apparut pieds nus, en majesté, tenant ces palmes comme ça, en l'honneur des artistes qui allaient s'emparer de cette salle et en l'honneur de Charles Garnier qui l'avait construite. Et elle récita un très long poème, plusieurs pages, je pense que ça a dû faire presque 10 minutes, un quart d'heure pour réciter ce long poème qui était dû à Jean Écart. Et je ne sais pas si vous savez qui était Jean Écart. Jean Écart, c'était un écrivain toulonnais de notre région, de l'Académie française. Et Jean Écart a fait donc ce très long poème, très beau poème, qui se terminait par ces vers. « Et vous, peintres, sculpteurs, musiciens et poètes, et toi, le bâtisseur du Palais Merveilleux, » c'était Charles Garnier, bien sûr, « artistes, j'ai cueilli ces palmes pour vos têtes, soyez loués, vous tous qui réveillez les dieux. » Bien dit, hein, voilà. Les palmes pour vous tous qui réveillez les dieux. Ce texte de Jean Écart, l'écrivain toulonnais de l'Académie française. Eh bien, une fois que Sarah Bernhardt eut quitté la scène, eh bien, il y eut d'autres artistes qui se produisirent Non, voilà, c'est ça. Dont Caroline Meillant Carvalho, qui était une grande soprano de l'époque, c'est elle qui avait créé à Paris les grands rôles de Marguerite de Foix, de Roméo et Juliette. Et Célestine Galimarié, qui avait été, qui était une des cantatrices les plus célèbres de l'époque, tout simplement parce qu'elle avait créé le rôle de Carmen. Et donc, elle avait invité Célestine Galimarié, d'ailleurs, je vais faire une parenthèse, qui était évidemment au fait de sa gloire ici, et qui termina sa vie bien tristement, dans une misère absolue, à Vence, dans une maison de pauvres, à Vence, au début du XXe siècle, parce que lorsqu'elle avait fini sa carrière, elle se maria avec un certain Delors, si je me souviens bien. Qui était un joueur invétéré, qui perdit toute sa fortune et toute la fortune de la famille au casino de Monte-Carlo. Et lorsqu'il mourut, eh bien, elle n'avait plus rien pour vivre. Elle fut recueillie par les bonnes sœurs à Vence. Et la créatrice de Carmen, qui avait créé l'opéra le plus célèbre du monde et qui avait eu une gloire européenne, finit misérablement. Donc, il y eut des extraits d'opéra. Il n'y a pas eu de représentation d'opéra, mais des extraits d'airs d'opéra. Et il y eut surtout, et ce qui mit la salle debout, une œuvre qui était dirigée évidemment par Roméo Accorsi, puisque c'était lui le chef d'orchestre à l'époque. Une œuvre que vous connaissez, dont nous allons entendre les dernières minutes. Une œuvre qui était due à un des amis de Roméo Accorsi, dont je vous ai donné le nom tout à l'heure et dont vous allez retrouver. L'ouverture de Guillaume Tell de Rossini. C'est comme ça que fut inaugurée la salle de concert. Voilà l'ouverture de Guillaume Tell de Rossini que Roméo Accorsi dirigea lors de l'inauguration de la salle Garnier, la salle de concert de l'orchestre, en ce 25 janvier 1879. La salle avait un directeur, bien sûr, et ce directeur s'appelait Jules Cohen. Il ne resta pas très longtemps, il resta quelques années, après quoi l'orchestre eut un nouveau directeur épisodique, mais enfin un directeur important, hein, puis qui avait un nom célèbre, Jules Padeloup, hein, les concerts Padeloup de Paris, qui vint ici organiser la saison de l'orchestre pendant quelques années. Et puis, bien sûr, cette salle de concert allait devenir une salle d'opéra également, hein, on y donnait à la fois les concerts, et au rythme, pendant un certain nombre d'années, de deux concerts par jour, comme je vous l'ai dit, mais on donnerait également des opéras, et quels opéras ? Ceci à l'arrivée d'un personnage dont nous parlerons la prochaine fois, dans le prochain épisode, qui est Raoul Gainsbourg, qui a évidemment eu une importance considérable dans la vie de l'opéra, et par voie de conséquence, dans la vie de notre orchestre. Voilà, on est arrivé au bout de l'heure de ce second épisode. Je remercie Valérie pour son PowerPoint, là, pour toutes les images. C'est elle qui a illustré par ces images les propos que je vous ai tenus. Et je vous remercie de m'avoir écouté.
Thank you. Christian toujours réclamé.